Il faut donc que l'homme qui veut faire illusion aux autres sans se laisser tromper lui-même distingue avec exactitude les ressemblances et les différences des choses. Oui, cela est vraiment nécessaire. Sera-t-il donc capable, s'il ignore la vraie nature de chaque chose, de reconnaître la différence, plus ou moins grande, de la chose qu'il ne connaît pas avec d'autres? Impossible. Ainsi, l'erreur de ceux qui croient le contraire de ce qui est vient évidemment de quelques fausses ressemblances, sans contredit. Y aurait-il donc un art possible de faire prendre insensiblement le change à ses auditeurs et de les conduire de ressemblance en ressemblance, depuis la véritable nature des choses jusqu'à son contraire, ou d'éviter pour son propre compte une semblable erreur, sans connaître soi-même la nature de chaque chose? Cela ne se peut. Ainsi, celui qui ne connaît point la vérité et qui court après l'opinion, s'il prétend posséder l'art de la parole, ne possède qu'un art ridicule, et qui proprement n'est pas un art. Il en court grand risque. Veux-tu voir maintenant dans le discours de Lysias, que tu as entre les mains, et veux-tu voir dans nos discours ce que j'entends par art ou par défaut d'art? Le plus volontiers du monde, car nous dissertons dans le vague, n'ayant pas d'exemple capable de nous fixer. Il semble vraiment qu'un heureux hasard nous ait fait prononcer deux discours propres à montrer que celui qui connaît la vérité peut aisément, et comme en se jouant, la faire perdre de vue à ses auditeurs. C'est pourquoi, mon cher Phèdre, je rapporte ces discours aux dieux habitants de ces lieux. Et peut-être aussi les interprètes des muses qui chantent au-dessus de nos têtes nous auront-ils envoyé ces inspirations, car pour moi, je n'ai jamais rien entendu à cet art de la parole. Soit, puisqu'il te plaît de le dire, mais commence l'examen dont tu parles. Lis donc le commencement du discours de Lysias. Instruit de tout ce qui m'intéresse, tu sais ce qui contribuerait à notre bonheur commun, ne me refuse pas sous prétexte que je ne suis pas ton amant, car l'amant, une fois satisfait, se repent ordinairement d'avoir trop fait pour l'objet de sa passion. Arrête maintenant. Il faut montrer en quoi Lysias se trompe et manque d'art, n'est-ce pas? Oui, certes. N'est-il pas évident que sur certains sujets, nous avons tous les mêmes idées, et que sur d'autres, nous sommes en guerre. Je crois bien te comprendre, mais explique-toi plus clairement. Si quelqu'un prononce le mot « fer » ou « argent », ce mot ne réveille-t-il pas en nous tous la même idée? Certainement. Mais qu'on prononce le nom de « bon » ou de « juste », n'allons-nous pas l'un d'un côté, l'autre de l'autre, sans être jamais d'accord ensemble? Et souvent avec nous-mêmes. Il est vrai. Ainsi, sur certaines choses, nous sommes d'accord. Sur d'autres, non. J'en conviens. Maintenant, de quel côté est-il le plus facile de nous faire illusion? Et dans quel sujet l'art de la parole a-t-il le plus d'empire? Évidemment, dans ceux où il y a de l'incertitude. Celui donc qui veut acquérir l'art de la parole doit d'abord faire méthodiquement cette distinction et se faire une idée nette de ces deux espèces de choses, de celle où la multitude est nécessairement incertaine et de celle où elle ne l'est pas. Celui-là serait bien heureux, mon cher Socrate, qui saisirait parfaitement cette distinction. Après cela, je crois qu'il faudrait, en abordant chaque sujet, reconnaître sans illusion et d'un regard pénétrant à quelle espèce il appartient. Nul doute. Et l'amour? De quelle espèce dirons-nous qu'il soit? Des choses dont on dispute ou non? De celles dont on dispute, assurément. Crois-tu sans cela qu'il t'aurait laissé soutenir, comme tu l'as fait tout à l'heure, d'abord qu'il est un mal, et pour celui qui aime et pour celui qui est aimé, et ensuite qu'il est le plus grand des biens? À merveille. Mais réponds encore à cette question, car dans le délire de l'enthousiasme, cela m'est échappé de la mémoire. Ai-je défini l'amour en commençant de parler? Oui, vraiment, on ne saurait mieux.